Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Dominique Barbery.
Bonjour.
Bonjour Yves Viollier.
Bonjour.
Et bonjour Louis-Philippe D'Alembert.
Bonjour.
Moi, je suis Amélie Cordonnier, je suis autrice et je suis journaliste aussi. Et je suis ravie aujourd'hui de coiffer cette casquette pour animer cette rencontre autour de vos trois romans parus en cette rentrée. Dominique Barbery, vous publiez Une façon d'aimer chez Gallimard, tout juste auréolé du Grand Prix du roman de l'Académie française. Bravo. À quoi pensent les saumons? C'est une sacrée question, Yves Viollier, et c'est le titre énigmatique de votre roman qui est apparu aux presses de la Cité et qui m'a fait pleurer, comme ça je le dis tout de suite. Voilà. Quant à vous, Louis-Philippe D'Alembert, vous nous racontez une histoire romaine, une grande fresque italienne, une saga familiale, pourrait-on dire, parue chez Sabine Vespizer. Alors, vos trois livres ont pour point commun de nous faire voyager dans des contrées plus ou moins lointaines, en Afrique, comme pour vous, Dominique, en Italie, avec vous, Louis-Philippe, et jusque dans le camp de concentration de Mauthausen, en Allemagne, avec vous, Yves. Mais ils nous font aussi, et surtout, je dirais, voyager dans le temps, un temps passé, oublié peut-être, mais pas perdu, puisque vous écrivez. C'est la magie, je crois, et le pouvoir inouï de la fiction. Alors, pour commencer, j'aimerais, si vous le voulez bien, que vous nous racontiez la genèse de vos romans. Comment il est né, de quelle idée, de quelle envie, de quelle image, de quelle nécessité peut-être aussi. Alors, honneur aux dames, Dominique Barbery, Une façon d'aimer est votre 15e roman.
Non, le 11e.
11e, pardon, je l'ai bien noté et je dis 15. Remarquez, je vous en ai fait écrire 4 d'un coup en plus. Pardonnez-moi. Vous l'avez écrit en mémoire de votre père, précisez-vous, dès la première page. Et c'est peut-être elle, la mémoire, qui est la grande héroïne de votre livre, que j'ai trouvé d'une délicatesse infinie. Et comme je ne suis absolument pas la seule, c'est merveilleux. Ce sont les souvenirs de sa cousine Olivia que votre narratrice convoque pour partir sur les traces de sa tante Madeleine. Ce mot « trace » revient souvent dans le livre. Il est très beau, ce mot. Madeleine a quitté sa Bretagne natale dans les années 50 pour l'Afrique. Elle part vivre au Cameroun, à Douala, pour suivre son mari, qui travaille à la délégation. Et dans ce pays de boue rouge, assourdi par le cri des oiseaux, qui lui est aussi étrange qu'étranger, et sur lequel plane la menace de la guerre, elle va rencontrer un homme lors d'un bal. Alors, ces pages de danse qu'on divulguera... Je m'arrête là, ne croyez pas que je vais divulguer votre livre. Mais ces pages de danse sont absolument superbes. Elle va vivre avec cet homme une relation impossible à nommer. Et ça tombe bien, puisque vous avez trouvé un merveilleux titre pour dire cet indicible. Comment et pourquoi êtes-vous partie, Dominique, sur les traces de Madeleine?
Alors, bon... C'est joli, un pays aussi étrange qu'étranger. Hein. Alors, pourquoi je suis partie sur les traces de Madeleine? D'abord parce qu'il y a... Ah, d'abord, vous m'entendez?
Parfaitement.
Ça va. Bonjour à tous, j'oubliais de le dire. Parce que d'abord, il y a un lien avec mon histoire familiale. Puisque moi-même, je suis née à Douala, juste avant l'indépendance, que mes parents ont suivi, ou plus exactement que Madeleine, suit à peu près l'itinéraire qui a été celui de mes parents de la région nantaise au Cameroun, à Douala, et que donc, pour moi, ce pays était un peu mythique, parce que, voilà, j'en entendais parler, j'écris toujours
oui.
Sur les documents nés à Douala, avec des petites remarques, ça ne se voit pas de temps en temps. Bon, mais j'avais cette idée, donc, et j'ai eu cette idée, alors, depuis longtemps, j'avais l'idée d'écrire là-dessus, c'est-à-dire de trouver le moyen de parler de cette ville dont je connaissais les noms, le pont du Vouri, Nkong Samba, enfin, qui chantait beaucoup, hein, des lieux, l'Aquapalace, tout ça était assez mythique. Et quand mon père est mort, et on revient à cette histoire de traces, j'ai eu l'impression que ces récits, qui n'étaient pas grand-chose, qui étaient toujours un peu les mêmes, les récits d'avions qui se perdaient dans la forêt vierge, le récit aussi des troubles qu'il y a eu, parce que Madeleine arrive, comme ma propre mère d'ailleurs, dans la période entre 55 et 60, où vraiment il y a l'UPC, le Parti des indépendantistes, est passé dans la clandestinité, après avoir essayé d'imposer pacifiquement l'indépendance, et donc il y a des troubles, il y a de la répression, etc. Et je me suis dit que quand mon père est mort, ben, ces témoignages risquaient de disparaître, qu'il n'en resterait plus de traces.
Voilà.
Voilà. Et j'ai cherché, en écrivant, à retrouver ces traces très, très lointaines. Et ces témoignages, et c'est amusant parce que j'ai reçu quelques lettres de gens qui avaient vécu là, à l'intérieur de cette communauté, et qui me disent, ils ne sont pas tout jeunes maintenant, j'ai connu ça, je pensais que personne ne s'y intéressait, et voilà, je retrouve Douala.
C'est émouvant. Alors, vous, Yves Ollier, dans À quoi pensent les saumons, vous mettez en scène un personnage prénommé Simon, très malade. Il n'en a plus pour longtemps à tousser autant et à fumer comme un pompier. C'est pas des cravenas comme dans le livre de Dominique Barbery. En plus, les cravenas, moi, c'était les cigarettes de ma mère, alors avec le chat sur le paquet. Donc lui, il fume des américaines avec le chameau sur le paquet. Et comme l'oncologue lui donne son feu vert, il trouve le courage, juste avant de mourir, d'entreprendre en voiture le voyage de 1500 km qu'il n'a jamais fait. 65 ans après être rentré du camp de Mauthausen, dans des conditions bouleversantes que vous racontez à la fin du livre, il y retourne avec Claude, sa femme, c'est son amour depuis toujours, et lui qui s'est toujours tu, se met à parler, de peur peut-être que ce ne soit le silence qui le tue. Comment est né, Yves, ce 38e livre? J'espère que j'ai bien compté, mais vous, j'avais bien compté, parce que j'ai recompté deux fois. 38, c'est vraiment beaucoup.
Je crois que j'ai compté trois fois.
Comment est né ce 38e livre que vous n'auriez pas écrit, précisez-vous, à la fin du livre, dans une note, si vous n'aviez pas rencontré un monsieur qui s'appelle Pierre Mauger?
Oui. Bien, il se trouve que j'ai mon précédent roman, qui s'intitule « Un jeune homme si tranquille », et l'histoire d'un jeune homme de 17 ans qui est devenu un salaud, une sorte de Lacombe Lucien. Et je me disais, en écrivant ce roman, la question qui se posait, comment devient-on un salaud? Comment devient-on un héros?
Oui.
Et j'avais à ma disposition un homme auquel je pensais, c'est Pierre Mauger. Cet homme a aujourd'hui 101 ans, cette année, et qui a été, bien qu'il s'en défende, un héros. Il a été l'agent de liaison du colonel Rémy. Tout sur la côte atlantique, c'est lui qui circulait partout, qui transmettait les messages, qui prenait tous les risques. Et je me suis dit, en écrivant Un jeune homme si tranquille, je vais aller rencontrer Pierre Mauger. Je suis allé rencontrer cet homme, et tout de suite, j'ai été séduit par cet homme-là. Lors de ma première rencontre avec lui, après 2 heures de conversation, il avait 98 ans à ce moment-là.
Oui.
Il me dit, après 2 heures, il me dit, je vous prie de m'excuser, monsieur, il faut que j'aille prendre mon médicament. Et puis je lui ai dit, je vous en prie, on était chez lui, il s'en va, il revient avec une bouteille de champagne et 2 coupes.
Oh, j'adore. Oh, c'est tellement charmant.
Un homme qui a une force de vie encore aujourd'hui, quand je suis allé... Bien sûr, j'ai écrit un roman, hein, ça n'est pas sa biographie.
Bien sûr.
Quand je suis allé lui porter le livre,
oui,
je lui ai dit, comment allez-vous, Pierre?
Oui.
Et il me répond, mais j'ai vu mon médecin hier, il m'a donné 6 mois de permission, mais c'est l'éternité. Il est comme ça. Et quand je l'ai quitté la première fois,
oui,
en montant dans ma voiture, je me suis dit, mais cet homme-là, c'est un saumon. Il a été capable de passer à travers toutes les difficultés, faire 3 ans de Mauthausen, et maintenant il a 100 ans, il est encore là. Et je suis parti à l'aventure avec lui et sa femme au volant du pick-up. Et si je ne l'avais pas, c'est pourquoi je le remercie à la fin, si je ne l'avais pas rencontré, je n'aurais jamais écrit.
Ah, ça aurait été dommage.
Ça n'était pas possible. Je n'étais pas légitime pour écrire ça. Mais m'appuyant sur lui, eh bien, Pierre est devenu Simon. Et puis, son épouse, que je n'ai pas connue, part avec lui dans le pick-up, au volant du pick-up. Alors que lorsqu'ils annoncent à leurs enfants, parce que, donc, comme vous l'avez dit, il est malade,
oui,
ils annoncent à leurs enfants qu'ils vont aller à Mauthausen. Les enfants, les deux garçons disent, mais vous êtes fous.
Oui.
Parce que Simon a dit à son épouse, on va aller à Mauthausen. Elle lui dit, mais tu n'as jamais voulu y aller, tu n'as jamais voulu en parler, parce qu'il était l'homme que j'ai rencontré, moi. Il regardait devant et ne voulait pas regarder en arrière.
Ah, bien sûr.
Et elle lui dit, on va y aller en avion. En avion, on ne va rien voir. Mais alors, on y va en train. Et tu ne veux pas que je reprenne le train pour Mauthausen? Donc on va y aller avec notre pick-up. Et ils sont partis comme ça. Et pendant 3 jours, ils vont être à Mauthausen. Et j'ai fait ce voyage avec eux. Voilà l'origine du roman.
Qui est déjà une histoire en
même temps. Et c'est l'histoire du couple en même temps, bien sûr, c'est ce qui m'intéressait.
Oui, oui, on va en parler après. Vous, Louis-Philippe, à votre tour, autour de votre saga familiale romaine, vous l'annoncez en préambule, je vous cite, « Ceci est le roman de la famille de Laura Sabatelli-Guerrieri, Laura Sabatelli-Guerrieri de Pretis, celui de sa vie aussi, par ruissellement, ramené des souvenirs et par des histoires que lui narrait dans son enfance la Contessa, sa grand-mère maternelle. » Je trouve ça très joli, le ruissellement. Cette fresque, sur 3 générations, et en 3 parties, met à l'honneur 3 femmes. Jusque-là, je crois qu'on a bien suivi. Elles sont unies par les liens du sang, et pourtant, tout les oppose. Je dis « et pourtant », d'ailleurs, il n'y a aucun lien de cause à effet. Elles sont unies par et les liens du sang, et elles sont opposées. Il y a là la très chic, très snob et très en retenue comtesse de Préti, qui vit rive droite, dans un quartier huppé. Sa fille Elena, partie sur la rive gauche de Rome, pour fuir cette mère impossible, sans doute, et s'installer avec son mari Giuseppe, avec qui elle aura une fille, Laura, que nous allons suivre dans l'effervescence politique et culturelle des années 70. C'est la même question pour vous, Louis-Philippe. Comment vous est venu ce 13e livre que vous dédiez fort joliment, je trouve, aux femmes debout partout dans le monde et aux hommes présents à leur côté?
Oui, bonsoir à toutes et à tous. Comment est venu? Depuis longtemps, j'avais en tête d'écrire un roman sur Rome. Pas uniquement sur Rome, j'ai déjà écrit sur l'Italie, notamment sur le tremblement de terre des Abruzzes de 2009. Mais Rome, c'était, j'avais envie de faire une déclaration d'amour, une vraie déclaration d'amour à cette ville qui est pour moi l'une des plus belles villes au monde, si ce n'est la plus belle, après Brive, bien entendu.
Bien entendu. Donc, merci de le préciser, c'est très gentil.
Donc, c'est vraiment l'une des plus belles villes où j'ai eu la chance de vivre de longues années. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est une ville qui est à la fois dans le passé, donc la ville éternelle, et en même temps dans le présent. Et c'est une ville, quand je dis dans le présent, le moderne, à Rome, il y a 2 lignes de métro depuis au moins 30 ans. On n'arrive pas à en faire une troisième parce qu'à chaque fois qu'on fait des fouilles, on tombe sur des vestiges et tout. Donc, on n'y arrive pas. Donc, on est à la fois dans le présent et dans le passé. Et il y a une manière d'être romain. Donc, pour cela, il faut avoir vécu et être de 7 générations de Romains pour être ce qu'on appelle là-bas un Romain doc, appellation d'origine contrôlée. Donc c'est vraiment, il faut du temps et donc on ne peut être que sous le charme de cette ville, et j'avais envie que dans le roman, dans ce roman-ci, que ça traduise l'humour, le côté un peu gouailleur du romain, de la langue romaine qui est un peu différente quand même de l'italien, et voilà. Mais c'était des années que c'était dans un coin de ma tête. J'ai un rapport au lieu sur lequel j'écris quand j'ai vécu. Il me faut du temps, il me faut de la distance dans le temps, et parce que j'ai souvent peur de faire un récit de voyage ou bien sinon de la poésie.
Pour que donc, ça devienne roman, il faut laisser passer le temps.
Il faut vraiment que ça mûrisse, et là, une fois que ça s'est mûri, donc je reviens à partir des souvenirs avec beaucoup d'émotions, d'odeurs, de tout ce que j'ai vécu, et après je vais vérifier, bien entendu. Je vais vérifier. Et pour moi, Rome, c'est ça, c'est cette vie, c'est cette gouaille, c'est le cinéma néo-réaliste italien, c'est la cuisine italienne, bien sûr, c'est romaine en particulier, parce qu'il y a une cuisine romaine qui est en partie différente de la cuisine italienne en général. Donc, c'est tout ça que j'avais voulu faire passer dans ce livre-là, quoi. Et c'est arrivé à un moment donné à partir du moment où j'ai trouvé le personnage de la Contessa, qui est un peu, j'ai presque calqué sur une dame assez âgée que j'ai connue, là-bas, et qui vivait, qui était une aristocrate, qui vivait un peu dans le passé, mais qui, famille un peu désargentée, mais qui avait une grande peur dans la vie, c'est de déchoir, en fait, c'est-à-dire de perdre ses privilèges qu'elle avait déjà perdus sans même s'en rendre compte, en fait. Oui. Et à partir du moment où j'ai trouvé ça, et puis je me suis dit, tiens, ça y est,
j'ai trouvé le fond du roman. Alors, vos 3 livres mettent leurs pages dans les pas de femmes et d'hommes qui ont vibré, qui ont souffert dans leur chair, qui se sont aimés et quittés dans le plus grand secret. Il y a quelque chose de bouleversant, j'ai trouvé, à penser que vos personnages ont vécu, souvent malgré eux, presque toujours à l'insu de ceux qui les aiment, et de voir leurs proches et leurs descendants se lancer sur leurs traces, on revient avec le mot trace, outre-tombe parfois, ou juste avant que la mort ne les emporte, comme avec vous Yves, pour les retrouver, découvrir qui ils étaient, et tenter de les comprendre, vos personnages s'appuient sur leur mémoire. Ils s'enfoncent dans les souvenirs, et tant pis si certains manquent à l'appel ou se sont fait la malle, puisque vous êtes écrivain, l'imagination prend le relais, et tout cela devient vrai. Vos livres ont cela de commun, de faire la part belle aux chansons d'autrefois, aux questions, parfois sans réponse, aux photos, aux récits, souvent troués et que comble la fiction. J'aimerais que vous nous expliquiez en fait chacun pour quelles raisons vous avez choisi de construire vos livres autour de toutes ces pièces qui au fond sont, je pense, peut-être des pièces de puzzle autant que des pièces à conviction, même si vos livres sont plus marqués par le doute que par les certitudes, mais c'est ça qui fait leur beauté. Alors Dominique, vous, votre narratrice, elle interroge sa cousine, elle confronte ses souvenirs aux siens, elle n'a de cesse de regarder les photos, vous en parliez tout à l'heure, des photos en noir et blanc, mais qui sont parfois jaunies, et de sa tante, elle les retourne, elle déchiffre les légendes qui les accompagnent, comme celle avec laquelle vous commencez, Douala, Allée des Cocotiers, 1958, et elle regarde tout ça, même lorsque l'écriture est indéchiffrable au fond, ou que la photo est floue, elle va s'appuyer sur ces images et aussi sur tous ces petits bouts de mots, de phrases de l'époque. Et je crois que c'est ça pour moi qui est très beau dans votre livre, au charme aussi exquis que suranné, vous avez à cœur de citer entre guillemets ou de les rapporter en italique. Alors par exemple, il y a la jupe type parachute, mais aussi les expressions comme l'époque actuelle, avec ce qu'on avait. Moi j'ai entendu, et je suis sûre que vous aussi dans la salle, peut-être des expressions des grands-mères, des grands-parents. Il y a voilà, femme à principe, alors le passage femme à principe, moi j'ai versé une larme à femme à principe. Pourquoi construire ainsi cette quête, qui tourne d'ailleurs à l'enquête dans le Cameroun d'après-guerre, donc avec à la fois les photos et les mots. Pardon, c'était long, mais c'est aussi pour donner envie de parler, de présenter votre livre, parce que si c'est pas...
Vous avez raison, et voilà. C'est très juste, c'est une enquête. C'est vraiment, le roman se présente comme une enquête que fait la narratrice des années après la mort de sa tante, et effectivement, elle utilise les documents qu'elle a à sa disposition, les photos, les quelques photos, notamment celle sur laquelle démarre l'évocation, où on voit Madeleine avec sa fille Sophie marcher Allée des Cocotiers, et dans une robe. Et puis, il y a un passage où on entend aussi Madeleine parler de ses robes, et en particulier parler de cette robe à bouquet de violettes, dont on va comprendre à la fin qu'au fond, c'est la robe qu'elle portait le jour où elle a rencontré cet homme. Et pour cette femme si pudique, si discrète, qui ne parle pas, un petit peu comme l'étaient peut-être un peu davantage les femmes de cette époque, au fond, elle parle à travers des détails, elle parle de manière indirecte.
Elle parle en biais, je trouve.
Voilà, elle parle en biais. Quant aux chansons qui effectivement permettent de reconstruire un peu cette atmosphère d'époque, il y a aussi le fait que la rencontre entre Madeleine et Prigent prenne place pendant un bal, et je tenais beaucoup à ce bal.
C'est trop beau, le bal.
J'ai voulu faire une thèse sur le bal, la scène de bal dans le roman du 19e. Oui. Je n'ai jamais achevé cette thèse, d'abord parce qu'il y a eu un différend entre ma directrice de thèse et moi, elle ne voyait pas l'intérêt du sujet.
Ah oui,
or,
mais nous,
moi,
on voit bien pourtant.
Tous les romans, enfin, il y a des scènes de bal dans tous les romans du 19e, et ce sont des scènes magnifiques jusqu'à Guerre et Paix, enfin, la scène de bal dans Guerre et Paix,
le guépard.
Et voilà, et je me suis dit, bon, voilà, tu n'as pas fait ta thèse, mais tu vas faire ta scène de bal. Et donc, il y a les chansons de l'époque, effectivement, notamment celle de Guy Béard.
Oui.
Au fond, parce que la vie de Madeleine aussi est partagée entre... une histoire sage, les histoires sages finissent souvent. Et puis, le bal chez Temporel, qui est une chanson que je trouve très belle et qui va correspondre aussi. Et puis, parce que je crois que les chansons sentimentales, elles sont la manière dont va être dit dans le roman cet amour qui ne se dit pas.
Oui.
Parce qu'au fond, c'est à travers les chansons que passe... comme une infusion, ce que j'ai cherché à faire, ce sentiment amoureux qui n'a pas de... duquel Madeleine ne parlera jamais.
Et c'est ça qui est très beau, c'est qu'on sent bien qu'elle l'aime, elle ne le dit jamais.
Mais chez Louis-Philippe, il y a tout, enfin, je voulais revenir là-dessus, il y a tous ces mots italiens sans arrêt qui truffent le texte, hein, et qui donnent l'italianité profonde du texte. J'ai beaucoup aimé ça.
Alors vous, Yves, vous écrivez un road movie, on l'a entendu tout à l'heure, entre passé et présent, qui se déroule sur 2 jours et 3 nuits. À 86 ans, Simon s'autorise enfin à parler. Je vous cite, « Je ne l'avais pas embêté jusque-là avec mes histoires », dit-il au sujet de sa femme. Il n'attend pas de parvenir au camp pour raconter, car les lieux qu'il traverse font remonter ses souvenirs de déportés. Et pour moi, ce qui fait la réussite et la force de votre roman, c'est sa construction. Je me suis dit, bah, vous auriez pu raconter le passé d'un bloc. Remarquez, ça aurait été beaucoup plus facile, puis vous auriez été débarrassé peut-être. Mais non, vous le confrontez au présent et vous imbriquez les deux temporalités. Et donc, cette structure, est-ce qu'elle s'est imposée à vous d'emblée ?
Elle s'est imposée naturellement.
Avec le voyage
peut-être ? J'ai fait le voyage avec eux. Voilà. J'étais avec eux et je me suis dit, il faut que j'avance avec eux dans leur propre histoire, à la fois dans leur histoire d'amour, ouais, de couple, et aussi dans l'histoire de Simon et dans ce qu'il va petit à petit livrer, parce que ça n'était pas simple de livrer cette histoire. Ça s'est fait comme ça. J'ai avancé avec eux et quand je sentais que le dialogue entre eux, on était arrivé au bout de cette étape, eh bien, je basculais dans le voyage ou dans Mauthausen. Voilà, tout simplement. Ça s'est fait, je dirais, naturellement.
Le pick-up tombe comme par hasard en panne le matin de la première nuit en Allemagne. Cette mécanique qui s'enraye, je me suis demandé si c'était une façon pour vous, Yves, de traduire la difficulté pour Simon de faire cohabiter les panneaux allemands qu'il a dans la tête avec les paysages du présent qui ne collent évidemment pas avec ses souvenirs.
Bien sûr, ça... quand il arrive là, qu'il redécouvre cette Allemagne à laquelle il n'a pas tourné le dos, parce qu'il n'a jamais eu, il le dit lui-même, la haine.
Non.
Les Allemands n'étaient pas chez eux, chez lui, donc tout naturellement il s'est levé pour les chasser, mais il n'a jamais éprouvé la haine, il n'a jamais éprouvé non plus. Et c'est quelqu'un qui est en quelque sorte gâté par les dieux, parce qu'il n'a pas éprouvé la haine, il n'a pas non plus eu peur. Il dit « la peur attire la foudre ».
Oui, ça c'est très beau, très vrai.
Et donc, il passait partout comme ça. Et là, quand il arrive dans cette Allemagne, ces mots, ces panneaux qu'il voit, bien sûr, il est projeté naturellement dans l'Allemagne qu'il a connue du temps de la guerre. Et le véhicule, comme si le vieux pick-up réagissait à ce que Simon découvre, il tombe en panne, en panne de batterie.
Là, bien sûr, bien sûr. Alors vous, Louis-Philippe, ce n'est pas les pays que vous traversez, puisque vous avez choisi l'Italie comme unité de lieu, on l'a bien compris, ce sont les époques. En vous basant sur 3 générations de femmes, vous réussissez très habilement à nous décrire une cité qui n'a de cesse de se transformer au fil des ans. Est-ce que l'enjeu littéraire pour vous, ce n'était pas d'ancrer la destinée de 3 femmes si différentes dans une ville mouvante qui les abrite, mais je me suis dit surtout qu'il les secoue et qu'il les malmène aussi en quelque sorte jusqu'à la fin du livre.
Oui, ça se déroule uniquement à Rome, vous avez raison, mais j'écoutais tout à l'heure Dominique parler en citant Guerre et Paix, justement, ou encore Le Guépard. On se souvient tous du très beau film de Luchino Visconti. Et donc, c'est comme par hasard dans le livre, et c'est pour ça que je reviens là-dessus, la tante Rachel, qui est la tante de Giuseppe et la grand-tante de Laura. Et tante Rachel, c'est une fan à la fois de la musique russe,
oui,
donc des grands compositeurs.
Oui.
Elle passe ses journées, à un moment donné, c'est une femme qui décide de rester enfermée chez elle, de ne plus sortir. Et elle est pianiste, donc elle joue Prokofiev, Rachmaninov, et puis elle lit les grands classiques russes.
Oui.
Ça, c'est un petit clin d'œil à moi-même, parce que c'est grâce à ces auteurs-là que j'ai découvert la grande littérature. Je devais avoir 15-16 ans. Et comme par hasard, cette dame, elle aime ça. Et Laura aussi, elle va aimer, comment dire, ces auteurs. Mais en même temps, vous avez raison à ce niveau de la ville. C'est une ville, comme j'ai essayé de le dire, qui est à la fois est très ancré dans le passé, dans donc cette Rome éternelle, comme je le disais tout à l'heure, mais en même temps très tourné vers l'avenir.
Oui.
Et ces femmes-là, on se rend compte, ce que j'ai essayé de faire dans le roman aussi, et là, Et Dominique, ce n'est pas par hasard, l'a bien vu. Et j'ai utilisé, bien sûr, la langue italienne. Mais comme je fais souvent, quand j'utilise une langue étrangère, je traduis dans le fil de la phrase.
Et vous aussi, vous le faites d'ailleurs, Dominique, par ça. C'est pour
ça que j'ai adhéré.
Voilà. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que chacun, c'est avec, autant avec les photos et les mots qu'on ressuscite une époque et un pays.
Tout à fait. Parce que je voulais retrouver la musique de cette langue.
Bah oui,
je voulais trouver le son. Et en même temps, je n'aime pas quand je lis un roman. Autant dans un travail universitaire, ça peut aller les notes de bas de page ou les notes en fin de volume, mais dans un roman, je n'aime pas les notes de bas
moi
de page.
Moi non plus.
J'aime bien qu'on se laisse emporter par la langue. Donc, du coup, je traduis avant ou bien après les mots ou les quelques rares expressions que j'emploie. Je n'oublie pas que j'écris pour des francophones. Mais en même temps, et ce que j'ai essayé de faire au début, la langue italienne ou les langues latines en général, mais l'espagnol et l'italien, par exemple, on emploie beaucoup dans la langue parlée le passé simple et le subjonctif imparfait,
oui.
Ce que nous ne faisons plus en français. Donc, du coup, au début, donc, j'ai utilisé, mais sans, comment dire, pédanterie, si je peux dire, parce que c'est pour moi une façon de mettre la langue italienne et de la faire pénétrer cette langue française d'une certaine façon. Donc, d'utiliser le subjonctif imparfait, le passé simple qu'on emploie au quotidien, et avec aussi des phrases au début assez longues, là aussi, qu'on trouve dans la langue italienne. Quand on lit un journal, même les journaux sportifs, c'est des phrases assez longues, très proustiennes, en fait.
Oui.
Et j'ai essayé au début de... Donc, tout ça, à la fois le vocabulaire, à la fois la structure de la phrase, et les mots, donc, de donner à entendre cette langue italienne, mais en français, quoi.
En fait. Très bien. L'autre point commun de vos livres, c'est que leurs intrigues entrechoquent amour et guerre, les font s'embrasser et s'embraser aussi, j'ai pensé. Yves Violier, vous écrivez à fleur de chagrin, je trouve, avec vraiment une pudeur infinie. Dans les camps, c'est la mort des autres qui sauve à plusieurs reprises la vie de Simon. La Seconde Guerre mondiale et la Shoah l'ont séparé de Claude. Et c'est la parole qu'il ose prendre enfin, par-delà les années, qui les rapproche, quand bien même ce qu'il tente de raconter est indicible. Simon y parle à Claude, qu'il aime depuis l'enfance, avant que la mort ne les sépare définitivement. C'était déjà assez émouvant comme ça, mais vous tissez dans votre roman une seconde histoire d'amour qui, elle aussi, ne ressemble à aucune autre, à qui le titre, je trouve, de Dominique convient merveilleusement, et si vous me permettez de le dire. Simon raconte à Claude cette autre façon d'aimer qu'il a vécue à une époque et dans un lieu où la haine avait tout détruit, et sans rien divulgâcher, puisque vous m'avez dit tout à l'heure que vous seriez d'accord. Est-ce que vous voudriez bien nous lire ce court passage que j'ai sélectionné, parce que je trouve qu'il parle aussi des livres de Dominique et de Louis-Philippe, page 238, là où il y a le petit papier.
Qu'est-ce que ça veut dire aimer ? C'est une question de circonstance. On était là tous les deux. On ne se connaissait que depuis la libération. On a passé ces moments ensemble. Avec elle, on faisait quelque chose qui ressemblait à la vie. Une goutte d'eau glisse sur la vitre de la verrière. Je la regarde. Je te demande pardon si c'est ça l'amour. Oui, je crois que je l'ai aimé.
Ah, j'adore, c'est trop beau. Ça me donne envie de pleurer, moi. Merci beaucoup. C'est pas facile, Yves, pour Claude d'entendre l'homme qu'elle aime parler d'amour. J'en dirai pas plus. Mais cette vérité de lui et cette écoute à elle, c'est aimer ça.
Bien sûr.
Voilà.
Bien sûr. Je crois que l'une de ses plus belles paroles d'amour, c'est quand il va lui confier cette histoire.
Oui.
Superbe aussi, cette histoire d'amour. Qui rejoint complètement celui de
C'est pour
de
ça
Dominique.
Que j'avais envie que vous le lisiez. Je trouve que ça montre que vos livres se parlent. C'est beau des livres qui se parlent sans se connaître.
Mais oui, que vous nous réunissiez tous les trois. Je dois dire que j'ai été professeur de latin. Je suis allé avec mes élèves une quinzaine de fois à Rome. Et je crois que si je suis vendéen, dans une autre vie, j'ai dû être quelque part romain. Donc, vous retrouvez, vous, avec votre roman...
Et moi, je suis vendéenne d'adoption.
Ah, mais voilà, c'était parfait. C'était parfait. J'ai remarqué une chose dans vos deux livres, Dominique et Louis-Philippe, qui m'a paru très intéressante. C'est que vous employez tous les deux la même expression, les événements, pour parler d'événements historiques et politiques qui n'ont rien à voir. Alors, chez vous, Dominique, la tension et le danger planent sur le Douala d'après-guerre. Donc, les événements que vous décrivez sont les soulèvements, les assassinats qui précèdent la décolonisation, car elle est en marche et rien ne pourra la faire reculer. Et je me dis que c'est Madeleine, au fond, et Yves Prigent qui doivent reculer, eux, s'éloigner l'un de l'autre. Est-ce que ces événements, ils ne sont pas, Dominique, finalement, l'élément qui donne toute sa dimension tragique à votre roman et qui mythifie en quelque sorte vos personnages? Je me suis dit, ça les fait entrer dans la légende des amants maudits, un peu, que le destin sépare.
Ah, c'est beau. Oui, pourquoi pas. Non, c'est vrai que... Alors, les événements, c'était aussi quand même un euphémisme.
Voilà.
Pour désigner tout ce qui se passait, dont on savait, enfin la communauté blanche savait plus ou moins, selon la fonction de chacun, ce qu'ils étaient réellement. Donc, en fait, voilà, il y a déjà une dimension un peu historique.
Oui,
mais c'est
sûr.
Vrai que j'ai un peu utilisé, c'est un grand mot, mais ce climat de tension accompagne et enveloppe la tension dans laquelle se trouve prise Madeleine.
Oui.
Puisque, voilà, elle rencontre cet homme qui lui propose des rendez-vous, qu'elle accepte plus ou moins, où elle va accompagnée de sa petite fille, donc en se protégeant en quelque sorte.
La petite fille
derrière,
et son bouclier un peu.
Derrière cette petite fille. Et il est évident qu'elle est très déstabilisée.
Oui.
Et que le climat politique participe de cette déstabilisation. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose à la fin qui... Il y a un suspense au fond.
Ah oui, il y a un suspense.
Autour de on ne sait pas ce qu'elle va faire. Et il y a aussi un suspense, même si tout le monde sait que l'indépendance est fixée au 1er janvier 60, il y a quelque chose qui a trait aussi à ce climat inquiétant et à cette voilà cette étrangeté profonde
oui.
de l'Afrique.
Oui, oui, l'étrangeté, c'est un beau mot. Louis-Philippe, vous écrivez ceci, page 127. Les événements, c'est ainsi que la famille de Giuseppe désignerait désormais la Seconde Guerre mondiale et l'ensemble des vicissitudes vécues à titre personnel pendant cette période, sans que leur interlocuteur sût jamais si elle parlait de l'une, des autres ou des deux à la fois, comme si celle-ci formait un binôme indissociable dans la mémoire commune. Évoquée, l'une revenait à coup sûr à convoquer les autres. En plus, comme ça, on entend bien les verbes au passé que vous avez utilisés.
Et un imparfait du subjonctif.
Un imparfait du subjonctif, ça nous permet
magnifique.
D'apporter la preuve de ce que vous avez dit tout à l'heure. Alors, vous n'avez pas choisi ce mot par hasard, événement, vous non plus. Est-ce qu'il fallait, je l'ai noté là, un euphémisme au pluriel, et Dominique est bien d'accord, puisqu'elle l'a dit avant moi, elle ne savait pas que je l'avais noté sur ma feuille, pour rendre compte de la violence du monde et apaiser les ravages familiaux qu'elle a provoqués sur plusieurs générations. Et c'est ça aussi qui est très intéressant, c'est la trace sur les générations.
Oui, donc juste avant, je voulais dire par rapport à ce que Yves vient de dire en parlant de latin, ce n'est pas par hasard qu'on se rencontre. Il se trouve que malheureusement, j'ai envie de dire, j'ai fait 9 ans de latin.
Et donc, ah mais c'est sympa mais pour le prof de latin.
Je pensais, mais comme beaucoup de jeunes, je me disais, tiens, ça, c'est utile à rien en fait. Et puis une fois que je suis arrivé en Italie, je me suis rendu compte que il y avait plein de mots que je ne connaissais pas en italien et qui venait comme ça tout seul et l'ordre des phrases aussi c'est venait, je me suis dit tiens finalement le latin a servi à quelque chose, mais au début j'étais persuadé que ça ne servait à rien quoi. Désolé. Donc oui, mais pour parler des événements et c'est justement le mot que Muriel a utilisé, l'euphémisme en fait, c'est-à-dire qu'il y a une forme de pudeur mais qu'on retrouve mais dans beaucoup d'événements de la vie en fait, hein, que ce soit les gens qui ont vécu comment dire la Shoah, les gens qui ont vécu la guerre ou les femmes qui ont pu être violées et qui mettent à distance et ça et justement cette pudeur pour ne pas avoir tout le temps à retourner la chose. Ce n'est pas par hasard souvent qu'il faut attendre plusieurs générations, la troisième génération ou si dans le cas de quelqu'un qui a vécu un drame personnel d'attendre 20-30 ans pour pouvoir en parler. Donc le mot événement dit dit tout sans rien dire d'une certaine façon. C'est-à-dire on dit la chose, mais on n'entre pas dans les détails. On la met un peu à distance, oui. Comme ça.
Comme si nommer, ça aurait été se souvenir et c'était trop douloureux quelque part.
Voilà, c'est-à-dire que nommer, ouais. c'est revivre la chose au quotidien, c'est et revivre tous les traumatismes que ça a pu faire. Et là, ils mettent à distance, et, en sachant que c'est arrivé, mais on met à distance parce qu'il faut que la vie continue. Et c'est ce que la famille de Giuseppe en particulier a essayé de faire, en mettant à distance, en parlant des événements, tout simplement.
Alors, je voulais... le temps file, mais il y a vraiment un aspect, au fond, moi, c'est celui-là, d'ailleurs, qui m'intéresse le plus, que je trouve impossible de ne pas évoquer. C'est un aspect fondamental dans vos trois livres, la force de l'imaginaire et la puissance de la narration. Alors, Dominique, au début du roman, vous avez cette expression que j'aime beaucoup, des histoires courées dans Douala. Et je trouve que grâce à ce verbe d'action, on les voit galoper, vos histoires. Et puis, au milieu du roman... La narratrice perdue se demande « Mais moi, qu'est-ce que je peux distinguer ?» Et vous citez alors, c'est un passage que j'ai qui m'a beaucoup ému, le souvenir d'une lecture sur l'obscurité. Et puis à la fin du livre, il y a cette phrase « J'ai essayé d'imaginer » qui sonne comme un aveu d'impuissance au fond, alors même que le livre existe. Est-ce que pour vous, raconter, c'est écrire à tâtons ?
Oui, toujours. D'ailleurs, j'écris comme ça, je pars souvent. Alors là, j'avais un vague dessin quand même, à la fois dessin des deux SIN et dessin une intention. Mais j'écris toujours, oui, sans plan. Donc c'est vrai que j'écris toujours à tâtons. Mais là, d'autant plus que, évidemment, je me suis posé la question, ma narratrice... qui peut reconstituer que quelque chose s'est passé, qui peut éventuellement s'appuyer sur de très, des confidences très limitées que sa tante aurait faites à sa propre mère, ne peut quand même pas reconstituer le bal tel qu'il était, ne peut pas non plus reconstituer ces scènes cette scène où Madeleine se voit proposer, s'étant vue proposer un dernier rendez-vous qui est contrarié par les événements puisqu'il y a le couvre-feu sur la ville. Enfin, on n'en dira pas plus.
Non.
Voilà. Donc, il y a des moments où il faut que l'imagination prenne le dessus et la narratrice l'assume. Et elle l'assume en disant... qu'elle ne peut pas imaginer, mais qu'elle imagine quand même.
Bien sûr, elle ne peut pas imaginer, c'est répété plusieurs fois, puis ça nous fait quand même de 3 ou 4 ou 5, 6 très belles pages, et au fond, elle imagine, bien sûr.
Voilà.
Bien sûr.
Oui, j'aime beaucoup l'idée d'écrire à tâtons. Et effectivement, pour moi, j'envie souvent les écrivaines et les écrivains qui ont un plan, qui savent très bien où ils vont, qui vraiment c'est tracé. Ils ont le premier chapitre, je vais mettre ça, le deuxième, le troisième, etc. Et moi, j'aime bien le côté ne pas savoir où je vais, que ce sont les personnages qui m'entraînent. Et un côté un peu diesel, j'ai du mal à démarrer et accoucher dans la douleur. Vraiment,
un bon diesel, quand même.
Voilà, et accoucher dans la douleur. Mais vraiment, j'accouche dans la douleur et j'ai du plaisir à... peut-être une fois que j'ai accouché de l'ensemble de l'histoire.
Ouais.
Et à ce moment-là, je commence à en faire ce que j'en veux. Mais l'idée d'écrire à tâtons, moi, ça me plaît beaucoup.
On travaille de la même manière, à peu près.
Et vous, Louis-Philippe, en fait, on voit bien que vous êtes un conteur dans l'âme. D'ailleurs, vous ne vous en cachez pas. Votre roman En preuve abonde. Vous êtes souvent tenté, ça m'amuse beaucoup, d'anticiper, d'aller plus vite que la musique, comme on dit. Vous mettez d'ailleurs en scène les efforts que vous faites pour vous réfréner. Par exemple, page 24, histoire qu'on ne dise pas que je dis des bêtises, j'ai des preuves. Page 24, vous exhortez à la patience, mais ne mettons pas la charrue devant les bœufs. Ou bien vous vous forcez à résumer les choses d'un « quoi qu'il fût », qui est quand même nettement plus chic qu'un « bref », mais c'est ça être écrivain. Et est-ce que pour vous, je me suis demandé, écrire, vous avez déjà commencé, c'était merveilleux, vous en parlez de la question, écrire pour vous, c'est raconter.
Ah oui, moi, c'est peut-être le côté enfance qui revient. Pour moi, il n'y a pas de roman sans narration, vraiment. C'est-à-dire que je comprends des romans où on analyse ou qui peuvent ne pas être des romans et qui sont où j'ai tendance très vite à les cataloguer, à dire que ce sont des essais ou autre chose, même si dans un roman, il m'arrive, comme vous l'avez vu, il y a peut-être une phrase ou deux phrases ou un paragraphe. Et pour moi, c'est avant tout la narration. C'est-à-dire que quand on prend le roman français, pour moi, l'âge d'or de ce roman français, c'est le 19e siècle. Et c'est vraiment le moment où les gens acceptent de raconter. Quand on a Stendhal, on a Balzac, on a Alexandre Dumas, on a tous ces gens qui racontent vraiment et qui nous prêtent traîne par la main, qui nous embarque. Et malheureusement, je vais dire quelque chose qui va peut-être me valoir des ennemis. Il y a eu en France toute une période qu'on a appelée le nouveau roman. Et le nouveau roman qui était très brillant intellectuellement, mais ça a quelque part tué la narration. Quoi. C'est-à-dire oui. qu'on a eu honte après de raconter. Quand on raconte, c'est comme si c'était de mauvais goût. Or, pour moi,
trop simple.
Oui, c'est trop simple. Et c'est très difficile de raconter. Oui. Et c'est pas évident oui. de raconter, de prendre les gens. Et c'est là qu'on se rend compte, quand on prend un roman, et puis on se souvient en tant que lecteur ou lectrice des premières phrases. Oui. Et là, on se dit, waouh, c'est extraordinaire. Quand on prend Garcia Marquez, par exemple, 100 ans de solitude, bien des années plus tard, face au peloton d'exécution, le colonel José Orellano Buendía se rappela le jour où son oncle l'amena, son grand-père l'amena à manger pour la première fois la glace, et ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire, on est parti là et on se dit, waouh, c'est extraordinaire. Pour moi, il n'y a pas de roman, mais ça ne signifie pas le fait de raconter, ça ne veut pas dire qu'on est idiot pour autant.
Mais non, on est bien d'accord.
Que l'auteur, eux ou l'auteur, sans eux, c'est des idiots. Non, c'est toujours très difficile et c'est tout comme il est difficile de faire simple aussi, quoi, en fait.
Ouais. Alors, d'accord. Yves, au cœur du récit de Simon, s'enchassent d'autres histoires terribles et bouleversantes. Il y a celle de Kader, cette ordure de capot qui faisait rouler sa charrette sur les corps. Celle du médecin et ami de Simon, j'espère que je n'ai pas trop estropié son nom, Jan Kowalski, qui lui sauve la vie plusieurs fois dans le camp, ou encore celle de la femme de l'aubergiste. Et après avoir refermé votre livre, je me suis demandé au fond si dans cet ultime voyage que vous faites vivre à Simon, maintenant je sais que c'est aussi Simon qui vous l'a fait vivre. Est-ce que parler pour lui et écrire pour vous, ce n'était pas plus... ce n'était pas la plus précieuse des marchandises, pour reprendre ce très beau titre du livre de Jean-Claude Grimbert que vous aviez peut-être lu. Est-ce que ce n'était pas ça, au fond, avec ce livre-là ?
Ce livre-là, vous parliez tout à l'heure de doutes, de difficultés. Mon problème, entre guillemets, c'était toujours la légitimité. Je me disais, en l'écrivant, il y a des gens qui ont vécu cette tragédie, qui ont été embarqués là-dedans, et moi, qui, heureusement pour moi, ne l'ai pas connu, je me permets de parler après eux. Comment ? Je me permettais dans ces moments-là d'aller retrouver le vrai Pierre et de parler de choses et d'autres avec lui pour reprendre le fil de mon récit et revivre aussi en compagnie du couple. Ce qui m'intéressait en même temps, c'était lorsque Simon va épouser Claude, sa belle-mère dit à Claude, n'oublie pas, si vous voulez que votre couple fonctionne, que vous allez être un couple des camps. Et oui. je me suis dit, il faut que je parte avec eux, que je fasse partie de ce voyage avec eux, que je sois embarqué. Et c'est là, quand on parle de conteur, je me laissais emporter par le pick-up, par le voyage, et comme ça, le roman a pu prendre chair et existence.
Je peux juste rajouter encore un mot. Désolé, je ne veux pas monopoliser la parole. Oui. Mais ça fait deux fois que Yves a employé le mot légitimité. Donc, oui. Je comprends et c'est normal qu'on se pose la question. C'est une forme d'honnêteté intellectuelle. Mais en même temps, je crois que tout auteur est légitime de parler de n'importe quel sujet. Oui. Et à partir de... Parce que ce qui fait aussi le roman, ce qui fait la littérature, c'est la capacité que nous avons toutes et tous à être en empathie avec d'autres êtres humains.
Oui, bien sûr.
C'est-à-dire sans pour autant avoir vécu tout ça. Autrement, oui. Dominique n'aurait pas pu écrire un roman qui se passe
au Cameroun. Moi, c'est pareil, je ne le sentais pas très légitime.
Donc, mais sinon, je n'aurais pas pu écrire un roman qui se passe en Italie. Italie. Donc, c'est la capacité que nous avons à être en empathie avec d'autres. Et maintenant, après, le roman, il est bon ou il n'est pas bon. Ça, c'est une autre histoire.
Ça, c'est la question d'être à la hauteur de la tragédie, à la hauteur de ces souffrances-là.
C'est vrai, c'est vrai.
Merci.
Mais vous êtes très délicat et vous en sortez.
Ah oui, délicat. Oui.
Et ça se passe sous la neige. Il me semble que ce manteau blanc de neige qui accompagne pendant ces trois jours Simon et Claude contribue justement à parler avec délicatesse de tout ce qui s'est passé là-bas.
Alors, comme le temps file, avant de nous quitter pour que vous alliez vous faire dédicacer les livres par Dominique, Yves et Louis-Philippe, donc c'est sur le stand de leur maison d'édition, j'avais envie que nous emportions quelques mots. Et comme on a lu des extraits, et il y a ce passage que j'aime beaucoup, que vous écrivez, Dominique. C'était comme s'il y avait en elle une autre femme que nous ne connaissions pas. Peut-être qu'elle se disait que le silence efface les choses, qu'il les annule. Vois-tu, c'est une question que je me pose aujourd'hui. Si on ne parle pas, s'il ne reste aucune trace, est-ce qu'on ne peut pas douter de ce qu'on a vécu ? Je me suis souvenue d'une formule que j'avais lue quelque part chez un écrivain japonais. Il définissait le secret comme une chose qui manque absolument aux animaux, qui n'existe que chez les hommes. Alors, mesdames et messieurs, ne doutons pas de ce qu'on a vécu, chérissons nos secrets et le monde ira mieux. Un grand merci à toutes et à tous.
Merci à vous.
Merci.